Alors récemment, vous pourrez très bien retrouver cette vidéo. On vous a parlé sur Boursorama du bilan 2023 en matière de lutte contre la fraude fiscale qui était plutôt bon. On le sait, on vous l'a dit, l'État qui a augmenté non seulement le nombre de ses agents dédiés à cette mission, mais qui a aussi introduit de nouveaux outils et également aussi renforcé les sanctions contre les fraudeurs. Une démarche d'ailleurs qui est déjà entreprise depuis maintenant plusieurs années déjà. Bonjour Jérôme.
Bonjour David.
Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yards. On se dit quand même qu'il y a des circonstances qui attirent davantage l'œil, le regard de l'administration.
Oui, il y en a quelques-unes. Voilà. Pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes. On va les évoquer là. Tout d'abord, on constate que tout changement notable finalement dans votre situation financière va attirer l'œil des inspecteurs. Alors comment ça se passe de loin, si je puis dire, c'est-à-dire du bureau, le vérificateur vont voir que vous avez perçu des gros dividendes ou des gros intérêts d'obligation, ce qui signifie que vous disposez de liquidités, et on va voir si ces liquidités sont retranscrites au titre de l'impôt, ou eh bien si au cas d'une succession, ou autrefois dans le passé pour l'ISF, si ces biens existaient, à quel prix, à quelle valeur vous avez pu les acheter. De loin également, c'est la même chose pour les plus-values. Si vous avez des plus-values importantes, ça veut dire que vous avez des titres. Est-ce que ces titres ont bien été achetés, figurent quelque part? Et alors, ça, c'est de loin, c'est-à-dire du bureau, mais de près, lorsqu'on vient vérifier de façon approfondie vos comptes bancaires, tous les gros mouvements qui interviennent, évidemment, l'administration va vous demander leur provenance, s'ils existent, d'où ils viennent. Et donc, il est important de pouvoir conserver tous les justificatifs sur ces documents.
Est-ce que l'administration est sensible à ceux qui brillent?
Alors,
il n'y a pas toujours de l'or, d'ailleurs.
Comme vous le savez, ça fait l'objet d'un film, vous vous souvenez, avec Pierre Brasseur et puis une des artistes du Splendide. Vous avez un article qui est l'article 168 du Code général des impôts qui est fondé sur les signes extérieurs de richesse. Donc si vous avez 24 Ferrari, 32 chevaux de course, plutôt des galopeurs, les trotteurs c'est un peu moins chic, une maison de 2000 m², 6 personnes à domicile, et que vous n'avez jamais déclaré d'ISF jusqu'en 2017, pas d'IFI, et que le revenu que vous déclarez, le revenu en tant que tel, c'est 2000 euros par mois, à mon avis, il va falloir que vous posiez des questions. L'administration, elle va s'interroger pour savoir si elle va vous interroger. Donc, avec ce type d'article qui n'est pas très utilisé, mais par le data mining, par les informations recoupées, l'administration et les réseaux sociaux, l'administration peut avoir envie de venir vous voir.
Voilà. Les non-résidents, ils sont dans le collimateur ou
Alors, ils ne l'étaient pas. Ils le sont un peu plus. Alors, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a une forme d'inégalité entre Bernard Dupont et James Smith. Si vous appelez Bernard Dupont et que vous vivez en France et que vous voulez partir à l'étranger, vous allez être analysé d'une façon différente que si vous êtes James Smith qui est arrivé en France et qui repart à l'étranger. Donc, quand vous quittez la France, vous la quittez vraiment. C'est une phrase que j'emploie souvent. Donc, ça signifie qu'on est capable de montrer qu'on a une véritable rupture de vie entre son passé français et son avenir dans le pays de la juridiction dans lequel on veut se tenir. Donc c'est un déménagement physique, un vrai déménagement, c'est-à-dire avec un déménageur, un nouveau logement à l'étranger ou de nouveaux logements, des abonnements aux journaux, une concession dans un cimetière, l'immatriculation des véhicules, on ne vient pas avec ces véhicules français en les conservant en Suisse, en Espagne, en Allemagne ou ailleurs. La sécurité sociale, souvent il y a des éléments de rattachement qui sont des éléments de rattachement administratif, on passe à côté. Ou la CFE, vous savez, la Caisse des Français à l'étranger, qui est tout à fait intéressante, qui est un peu plus chère. Clôture des comptes en France. En fait, vous faites un peu table rase du passé, vous transportez vos voitures de collection, vos tableaux, et vous évitez de conserver une maison habitable en France, parce que ça c'est un élément fort. Et vous évitez également de vous promener, si vous pensez parfois être à la limite, ce qu'on ne conseille vraiment pas, avec votre carte bancaire et acheter tout et n'importe quoi en France.
Et donc on vend sa résidence principale en France alors?
Et alors, justement, au moment du départ, c'est un vrai sujet, la résidence principale. Soit, dans tous les cas, la question qui se pose, c'est de la vendre ou de la donner. Dans ces cas-là, on l'a totalement aliénée, on ne l'a pas. Si on la conserve, ça va vous laisser une trace. Et si vous la conservez, on pourra considérer que vous avez un foyer permanent d'habitation dans chacun des pays. Et surtout si vous êtes Bernard Dupont. Donc, si vous la vendez, le mieux, c'est de le faire avant de partir. Parce que là, vous êtes sous l'empire du droit français, c'est clair. C'est votre habitation principale, pas de taxation sur les deux plus-values, c'est la plus-value des résidences principales. Si vous le faites après, faites-le dans un délai raisonnable. Alors, vous avez des conditions un peu particulières, si c'est la première maison que vous vendez dans, alors que vous n'étiez pas propriétaire de celle-là. Je passe ça de côté. Et donc, si vous voulez revendiquer cette question, ou alors vous allez dans un pays comme la Suisse, où vous avez une clause d'égalité de traitement, et si vous vendez, pas de sujet. Ce qui est important, c'est que vous vendez dans un délai raisonnable de la vente ordinaire et surtout vous évitez de la louer entre-temps. Vous dites tiens, c'est une bonne idée, je vais la louer parce que ça va me couvrir des frais. Ne faites pas ça, vous déqualifiez votre résidence principale et là vous allez vous retrouver avec des sujets qui ne sont pas bons.
Depuis quelques années, les comptes bancaires non déclarés sont devenus un sujet. Je ne sais pas si c'est un sujet sensible, mais ils sont devenus un sujet.
Bon, ils le sont beaucoup moins. Ils le sont beaucoup moins parce que beaucoup de personnes sont sorties du bois, quoi.
Pas tous.
Alors, pas tous, non. Il en reste encore, puisqu'ils viennent nous voir. Et puis, ce qui a été mis en place par les États et qui marche assez bien, c'est le CRS, qui n'est pas un officier ou un gendarme avec des bâtons et un bouclier. C'est le Common Reporting Standard. Le Common Reporting Standard, c'était l'échange entre les États qui vous permettent de dire « Monsieur Jaco a un compte chez moi, le savez-vous » Et à partir de ce moment-là, l'administration vient. Alors, on va régulariser, la période de régularisation est moins favorable que ce qu'elle était avant, donc les taux sont moins importants. Mais ce qui est plus grave, ce qui est plus difficile, c'est que l'administration utilise une arme fatale, c'est qu'elle essaie de, elle va vous demander l'origine des fonds. Et l'origine des fonds, ça veut dire d'où proviennent ces fonds. Est-ce que ça vient de votre famille? Est-ce que ça vient d'un business? Et donc quand vous n'êtes pas capable de le démontrer, l'administration à ce moment-là va considérer que ce sont des fonds qui proviennent d'une donation d'un étranger. Et l'étranger, la taxation se fait à 60%. Et ça, c'est beaucoup moins agréable. Donc on peut avoir intérêt, alors même si on le fait spontanément, mais si on le fait spontanément, on a peut-être un peu moins de chances de tomber dans cette pénalité, entre guillemets, ce rappel de 60%, parce que sinon, il ne va rien vous rester.
Bon, la valorisation de son patrimoine, c'est aussi un indicateur qui peut... donner des idées ou des envies au fisc d'y regarder de plus près.
Votre IFI trop bas, l'administration est assez bonne mère, elle ne demande pas que vous le mettiez, que vous tendiez
l'impôt sur la fortune immobilière.
Pardon, l'impôt sur la fortune immobilière, c'est un taux maximum d'1,5%, c'est beaucoup d'efforts pour elle pour le faire. Si vous êtes raisonnable, elle ne vous ennuie pas. En revanche, quand vous passez dans la tranche donation ou succession avec des taux élevés, vous êtes à 45%, même si vous êtes à 30%, ce qui veut dire que sur un taux de taxation à 30%, l'administration qui redresse d'1%, elle va en prendre 30 centimes. Sur 45%, elle va prendre 45 centimes. Donc, elle a tout intérêt à aller regarder ce qui se passe. Donc, ne rentrons pas dans des sujets trop tendus. On va se faire retrouver, on se retrouvera, j'allais dire, au bout du chemin avec l'administration, d'autant que ça a été bien dit par M. Attal, les successions seront un sujet. Alors, là où il faut être encore plus attentif, c'est que si vous appartenez, je dirais, à une classe sociale dites favorisés, si vous êtes un grand patron, si vous avez des responsabilités, l'administration est assez désagréable et elle a tendance assez rapidement à vous mettre une pénalité de 40% pour manquement délibéré d'office parce qu'elle considère que vous êtes intelligent et que vous savez.
Bon, quid des piscines?
Alors les piscines, on en a aussi beaucoup parlé, ça a fait la joie de certains. 60 millions d'euros de redressement, c'est pas négligeable, je ne sais pas si les chiffres sont tout à fait exacts. Ça continue et ça va aussi calmer le jeu, donc on a intérêt à plutôt spontanément évoquer sa piscine, comme ça on en sort. Sinon, on peut revenir 4 ans en arrière.
Quelqu'un d'avisé m'a dit que l'administration fiscale n'aimait pas trop les arrangements entre amis et au sein d'une famille, c'est vrai ça?
Oui, c'est vrai, parce que l'administration n'aime pas qu'on lui mente, elle n'aime pas qu'on lui cache quelque chose. Donc quand vous opérez des opérations, vous prêtez des fonds à un de vos enfants, vous ne le dites pas, et en fait c'est une donation déguisée, ou une donation indirecte, en donnant l'apparence de quelque chose qu'il ne l'est pas, l'administration n'aime pas. Donc quand il y a un prêt familial, en dessous de 5000 euros, il n'y a rien à faire, et au-dessus de 5000 euros, celui qui reçoit le prêt, l'emprunteur, va le déclarer. C'est beaucoup plus simple, on n'a pas de sujet, et si l'administration aussi vous fait un contrôle approfondi, vous vous retrouvez dans une situation qui sera convenable.
Bon, on finit là-dessus. Qu'est-ce qui peut mettre l'administration de mauvaise humeur, on va dire comme ça?
Alors, il y a vraiment deux choses que l'administration n'aime pas. La première chose, c'est le retard. Alors, le retard déclaratif, c'est 10%. J'allais dire la première fois, voire la deuxième fois, si vous avez les bonnes raisons et les bonnes mères, si vous ne mettez pas 6 mois pour déclarer, elle l'admet. Ce qu'elle n'aime pas, c'est les retards répétés. Et la deuxième sujet qu'elle n'aime pas, c'est qu'on ne lui réponde pas. Elle vous envoie des questions, parfois petites, parfois grandes, et parfois on a des contribuables qui sont tétanisés, tel le lapin devant les phares de la voiture, et qui attendent que la voiture arrive. Ça ne marche pas du tout. Il faut tout de suite répondre. Il vaut mieux dire « je réponds » en disant que j'ai rien à vous répondre parce que je ne sais pas. Parce que sinon, comme disait le bon Karl Lagerfeld, oui, ça m'énerve. Oui. Et donc, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire le mort. L'administration, elle est patiente. Elle vous retrouvera toujours. Donc, il ne faut pas jouer à ça.
Allez, conseil signé Maître Jérôme Barret, avocat associé au sein du cabinet Yards. Merci.
Merci, David.